Ça devient de pire en pire ce tournage. Mais le... Allons-y. Où est-ce qu'il y a des parapluies? Personne ne... Cette conne d'Hélène, elle comprend pas qu'il faut des parapluies, là. Elle pourrait en demander deux. On est à Cherbourg. Il y a plein de parapluies. Ah, nom de Dieu. Oh.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en position.
Ne fais pas trop bruit. T'as pas l'odeur.
Une all to vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
C'est lequel?
Une all to vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
On le croyait indescriptible, oui, et même immortel, tellement son énergie n'avait pas de limite. Un moteur en combustion permanente, 1000 projets jusqu'à ce dernier, tous flics qui n'a pas pu achever. Jean-Pierre Mocky est mort le 8 août dernier. Mocky, invité multi-récidiviste de On aura tout vu, et encore une fois ce matin avec nous. Bonjour tout le monde, et salut Laurent, et très heureux de vous retrouver.
Mais moi donc, bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
69 films depuis Les Dragueurs en 59, sans compter courts-métrages, doc et téléfilms, Mister Mocky, 60 ans de cinéma. Capable du meilleur comme du pire, on aimait ses défauts, ses coups de gueule, et surtout sa façon à lui de dynamiter le cinéma français. Un parcours tumultueux, compulsif, énervé, corrosif, drôle et si décalé. Vous l'entendrez évoquer entre autres Freinet, Godard, Guitry, ses colères, ses échecs, ses désirs, Mocky, sans Mocky, dans ce studio, ça fait tout drôle. Suivront les sorties de ce dernier mercredi du mois d'août entre Francky et Vif Argent, Une fille facile et La vie scolaire plus Apocalypse Now, Final Cut.
Allez, moteur!
Allons-y!
Moteur!
Vas-y, vas-y, Jean-Pierre!
Moteur! Moteur!
Allons-y!
Moteur!
Dites-moi, je voudrais vous demander quelque chose.
Ouais.
Pourquoi Polanski touche 2,5 milliards?
Roman? Des dollars?
Non, des anciens francs, mais quand même. C'est beaucoup.
Pour faire un film aux États-Unis?
Aux États-Unis, en Europe, enfin un film.
Ouais, mais qu'est-ce qui vous chagrine là-dedans?
Ben, moi, je pourrais en faire 10.
Et lui, il peut en faire qu'un?
Ben oui.
Et alors?
Ben alors...
Un film de quoi? 10, ben, ça fait 2,5 millions de francs.
Voilà.
Vous faites un film de 2,5 millions de francs, et puis lui, de 10 fois?
De 2,5 millions de francs.
Donc il fait... Mais il en fait qu'un?
Ben moi, je pourrais en faire 10, alors...
Ouais, mais vous faites 10 fois plus que lui, mais en moins. C'est ça qui vous chagrine?
Ouais. Non. Ben oui, ça me chagrine.
Non, on n'est pas des pirates.
Mocky dialogue avec Godard dans cet extrait de Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma de Jean-Luc Godard. Ce titre sied si bien à Mocky, patron insoumis de ce petit commerce qui a couru toute sa vie après l'argent. Moins il en avait, plus il tournait. C'était ça la drôle de logique de Jean-Pierre Mocky, Laurent.
Oui Christine, alors Jean-Pierre Mocky est mort et moi j'en veux encore. Ouais. J'espère que Clio ne m'en voudra pas d'avoir ainsi détourné le titre de la belle chanson hommage qu'elle avait consacrée à Éric Rohmer. Mais c'est vrai qu'on en voudrait encore des films de Mocky. D'accord, pas forcément ceux de la dernière période, se tourner avec 3,06 € sur la base d'un scénario écrit à la va-vite. C'est ce qui arrive parfois quand on tourne trop, Chabrol en savait quelque chose. Mocky, lui, n'en démordait pas et on verra peut-être un jour celui qu'il venait de finir de tourner. Le combientième au fait? Ben, moins de 60 selon la police, qui aurait bien aimé que Mocky l'oublie de temps en temps avec ses commissaires idiots, ses inspecteurs crétins et ses enquêteurs même pas bons à gérer la circulation, mais plus de 60 selon Mocky qui n'hésitait pas à s'attribuer à la paternité d'un film de Georges Franju. Peu importe, car Mocky n'aimait pas les chiffres et prenait même un malin plaisir à cacher sa véritable date de naissance. Et si on en veut encore du cinéma de Mocky, c'est parce qu'il a toujours occupé une place à part dans le cinéma français. Ni vieille, ni nouvelle vague, il a surfé en solitaire sur ses flots à lui, forcément libertaire, iconoclaste et anti-tout. De qui se moque-t-il, Mocky? Du monde entier, et ça fait du bien quand le jeu de massacre prend des allures de polar à la manchette, comme dans Solo, Un linceul n'a pas de poche, L'Ibis rouge, L'Albatros ou Le Témoin. L'un de ses films, pas son meilleur, s'appelle La machine à découdre, et on y tire littéralement sur tout ce qui bouge, comme une métaphore armée du cinéma de Mocky. Après le passage de Jean-Pierre Attila, rien ne repousse ou presque, ni la télé qui rembête, ni le foot qui rend fou, ni le catholicisme qui rend crédule, pas plus que les ministres corrompus et les journalistes véreux. le plus italien de nos cinéastes, en raison même de cette verve sociale cynique, aura également porté à son plus haut niveau le goût pour les comédiens. La distribution de ce qui est peut-être son film le plus réussi, La Cité de l'Indicible Peur, a des allures de piste aux étoiles emmenée par son génial acteur fétiche Bourvil, suivi de Véronique Nordet, Jean Poiret, Francis Blanche, Jean-Louis Barrault, Jacques Dufilho, Raymond Rouleau, Victor Francène, Marcel Pérez, sans oublier Dominique Zardi et Jean-Claude Rémoleux, figure incontournable du monde selon Mocky. Il était ainsi l'empereur des gueules, et sa grande gueule à lui ne va pas tarder à nous manquer. Décidément, oui, Jean-Pierre Mocky est mort, mais nous, on en veut encore. Et c'est pourquoi, au cours de cette émission, on l'entendra rugir encore et encore.
Pourquoi filmez-vous, lui avait-on demandé un jour? Parce que c'est un jeu d'enfant. On a l'impression d'être en récré toute sa vie. Si vous ajoutez le succès et l'échec, ça vous fait une vie complètement romanesque. Oui, romanesque, à commencer par sa date de naissance, vous l'avez dit, 1929 ou 33. Jean-Paul Adam Mokiejewski ou Mokiejewski, né à Nice, d'un père polonais d'origine tchétchène et de religion juive, et de Janine Zilinska, polonaise et catholique. Enfant et déjà acteur, Mocky figurant dans Les Visiteurs du soir de Marcel Carné, tourné à Nice, où il fait ses classes avec un certain Charles Pasqua.
Mais écoutez, Pasqua en était au lycée de Cannes. Il est redoublé toutes ses classes, lui, d'ailleurs, moi, donc je l'ai rencontré parce qu'il est plus vieux que moi, donc je l'ai retrouvé parce qu'il doublait et redoublait toutes ses classes. Il n'était pas très intelligent à l'époque, pas très instruit en tout cas. Et il vendait des Esquimaux, lui, il était sur la croisette, il fumait un cigare, et il envoyait des gosses avec des paniers pour vendre ses Esquimaux qu'il allait chercher en tricycle, à côté, dans une usine de chez Germay, quoi, enfin, Mico, plus exactement.
Troisième marque.
Voilà, alors, et entre-temps, il buvait, il avait une petite gourde.
De quelle marque?
Il buvait du rhum. Du rhum, je dirais pas le nom du rhum, mais c'était un rhum martiniquais, il y avait une martiniquaise dessus.
Bien.
Et alors, on baisait. Bon, enfin, donc c'est autre chose, ça part.
Ça dépasse l'alcool.
C'est autre chose. Et donc, Pasqua, eh ben, il avait une tête comme un ballon de rugby, il était rond, et je l'ai reconnu quand il est devenu politique, parce que je croyais jamais qu'il deviendrait politique, comme il était un cancre. Donc, mais il est devenu quand même. Il y a des cancres dans la politique.
Mocky qui quittera Nice très jeune en 46, il monte à Paris où il entreprend des études de médecine et pour gagner sa vie, il fait le taxi. Et parmi ses clients, ben Pierre Fresnay.
J'étais là avec la fourrure de ma mère parce qu'il faisait froid, j'avais un astrakhan.
Je prends le taxi en astrakhan, c'est pas mal, c'est classieux.
Et bref, vous le prenez en taxi.
Et alors je le prends à Neuilly-Saint-James où il habitait et puis il jouait à ce moment-là une pièce avec Gérard Philippe au théâtre de la Michonnée. Alors je le dépose, il me regarde, il me dit écoute... Téléphone-moi, j'ai quelque chose pour toi. Et effectivement, quelques temps après, il m'a appelé et il m'a fait jouer ma première pièce, avec lui-même d'ailleurs.
Vous étiez très beau mec, jeune, non?
Pourquoi je ne suis plus beau?
Si, vous êtes toujours beau, mais...
Non, mais pour qui vous ai repéré comme
beau,
ça?
Non, mais c'est vrai que les vieux sont pas beaux, mais... Non, mais attention.
Tout ça pour qu'on vous dise le contraire. Il vous a repéré tout de suite.
Parce qu'avant, vous nous avez dit hors micro que vous aviez été mannequin avec Clint Eastwood.
Oui, mais ça, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Ouais. Mais entre, vous savez, quand on était à Rome, parce que j'étais à Rome assistant de Fellini et de Visconti.
Oui, ça c'est pas.
Mais en tout cas, j'ai fait le mannequin.
Oui.
Et comme beaucoup de gens d'ailleurs, Jean-Claude Pasqua, plein de gens, les gens grands avec un physique avantageux, ils font les mannequins. Aujourd'hui, il y en a plein encore.
Médecine, taxi, mannequin et finalement le cours Simon et le conservatoire. Professeur Louis Jouvet est stagiaire aussi en Italie. Oui, avec Fellini sur la Strada et Visconti sur Senso, mais aussi en France avec Sacha Guitry qui lui aurait appris sa fameuse grande rapidité d'exécution.
Sacha Guitry, dont je fus également le stagiaire, tournait des films en 7 jours.
7 jours.
Eh bien oui, parce que dans le temps, quand il y avait la première télévision, on répétait hors enregistrement et il tournait en 3 jours un feuilleton de 1h30. Donc ça n'a rien d'extraordinaire d'aller vite. Et en plus, quand j'ai fait le Catherine Deneuve, Catherine, elle voulait y tourner vite.
J'en trouve.
Elle a voulu tourner vite. Moi, on m'a dit, elle est emmerdante, elle se maquille, etc. Pendant des heures, pas du tout. Elle a travaillé avec une rapidité extraordinaire.
Mais ça veut dire préparer beaucoup avant, quand même, non? En amont?
Oui, non, si vous voulez, c'est ça le génie de mettre en
scène. Bien sûr,
pardon. D'arriver à travailler très vite.
Non,
c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on fait, hein. Ici, vous savez ce que vous faites, quand même. Alors.
Et pourtant, comme le disait Michel Serrault, avec les autres, quand le film est écrit, il est fini, avec Mocky. Il commence.
Mais oui, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans le cinéma. D'ailleurs,
dans votre cinéma.
Oui, mais dans le bon cinéma. Je veux dire, dans le bon cinéma, Fellini, c'était entièrement Godard, qui est notre chef, puisque lui n'a même pas de scénario, donc c'est encore mieux, mais il arrive à faire des films quand même. Donc ça veut dire que aujourd'hui, ça se passe dans notre tête, et au dernier moment, on peut dire, ben, telle phrase est pas bonne, finalement, on l'a écrite, mais bon, on voit l'acteur, il l'a dit, c'est pas bon, alors il va rien dire, ou il va dire autre chose. Ce qui fait que, finalement, l'improvisation, c'est de ne pas vraiment s'attacher à ce qui a été écrit, parce que le metteur en scène con, c'est celui qui a écrit quelque chose, et qui s'y tient, même s'il remarque que c'est pas bon. Il continue, et c'est pour ça que ça fait des mauvais films. Parce qu'il a peur de se tromper, parce qu'il y a un plan là, il a peur en enlevant un rouage de la machine de tout casser. Alors donc, il bouge pas.
Après avoir été acteur, moqué notamment pour Cocteau, Grangier et Antonioni dans un sketch Les Vaincus, son premier film aurait pu être, en tant que metteur en scène, La tête contre les murs, dont il a signé le scénario et dans lequel il joue, mais les producteurs ont confié cette mise en scène à Georges Franju. Ce sera donc Les Dragueurs, en 59, tourné dans les rues de Paris, et déjà une grande liberté de ton, comme celle de la Nouvelle Vague, mais lui préfère faire cavalier seul.
Truffaut a participé à un film avec moi, c'est La tête contre les murs, et un autre film, c'est Godard, c'est Les Dragueurs. Moi, je travaillais avec eux, je les aimais beaucoup. C'était des journalistes, vous savez, les journalistes sont bons, peuvent devenir de bons réalisateurs, donc, mais ils sont quelquefois imbibés trop de ce qu'ils ont vu. Et alors ça, vous avez ça chez Tavernier, vous avez ça. Ils ont vu tellement de films que Orson Welles me disait, moi je vais pas beaucoup voir des films parce que j'ai peur de copier quelqu'un. Et moi je suis un petit peu comme ça aussi, j'ai toujours peur. Et je vais pas voir beaucoup de films parce que je me dis, tiens là, inconsciemment, je vais prendre quelque chose. Or, ce qu'il y a de grave chez beaucoup de metteurs en scène, on s'en apercevra quand je serai mort, dans 50 ans, j'espère, c'est que la postérité vient du fait que les œuvres, c'est des œuvres qui doivent être originales. C'est ça qui reste. C'est pas les copies. Mais même en peinture, je veux dire, les copies, les gens qui ont copié, qui ont pris des patchworks, qui ont pris un peu de Rossellini, un peu de machin, un peu de trucs, de Griffith, un peu de Chaplin. Ça, c'est très grave parce que, à bout d'un moment, quand on regarde un Chaplin et qu'on regarde un type qui a copié Chaplin qui reste. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu ça mon problème, moi.
Vous ne revendiquez aucune filiation au cinéma?
Si, je peux pas être sans influence, je veux dire, mais il y a des gens qui acceptent ces influences. Moi, j'essaie de les refouler. C'est pour ça que tous mes sujets sont quand même un peu bizarres par rapport à ce que font mes confrères. Et ce qui me met à part, donc ou c'est moi qui ai raison, ou c'est eux. Si c'est eux, ils ont gagné. Si c'est moi, c'est moi qui gagne. Mais je suis tout seul, avec quelques autres. Donc Ken Loach, qui est un homme également particulier. Mais il n'y a pas que lui, il y a des gens comme Abel Ferrara, il y a plein de gens différents.
Très tôt donc, Mocky suit sa voix, comédie étrange, satirique, avec ses seconds rôles, ses tronches qui apparaissent enfin, des films qui attaquent les institutions, la bourgeoisie, la télé, la connerie. J'aimerais vous faire écouter un extrait de Snob. C'est le directeur d'une laiterie qui s'est noyé dans une cuve de lait et le postulant à son remplacement qui va manipuler les trois autres candidats pour obtenir le poste avec Francis Blanche, Jean Tissier, Michael Lonsdale, Jacques Dufilot.
Ah là là. Plutôt que des boy scouts, tu ferais mieux de t'occuper des ludistes.
Ne sois pas graveleux. Tu traverses une crise morale d'une profondeur insoupçonnée.
Eh ben justement. Tu te consoleras avec les nudistes.
Mais tu publies mes articles, oui, ou non?
Dépose-les à la rédaction. Oh, dis donc, tu as vu la gueule que j'ai?
Je vois rien.
Justement, ça s'aggrave. Regarde. C'est tombé tout d'un coup ce matin. Oui, comme je me peignais.
C'est pas catastrophique.
Oh, si j'ai plus de cheveux, ma femme va me plaquer. Elle aimait tellement me passer la main dedans quand nous étions jeunes. Et si je me coiffais comme ça, ou bien comme ça, ou avec un cran, ou carrément en arrière, ça se voit toujours autant?
Tu devrais essayer une lotion.
Tiens, voilà ce que j'en fais, des lotions. Mais dis donc, tu te fous de moi? Fous le camp, taille-toi, salaud! Et tes articles, tu peux te les coller au cul, tiens! À la poubelle, caricature, tiens!
Enfin, Richard, calme-toi, fais pas ton vieux snob.
Snob? Eh, dis donc, je ne joue pas aux journalistes, moi! Snob toi-même!
Snob, moi?
Oui, snob!
Mocky célèbre aussi pour ses colères sur les plateaux de cinéma, les siens et ceux de la télé. Une colère, finalement, mise en scène, elle aussi.
Je suis toujours en colère contre la connerie. Il y a tellement de conneries qui, ça m'énerve, quoi. À bout d'un moment, j'en vois 2, 3, 4, 5, et puis après, je sors de mes gonds, quoi.
Alors, notamment contre ce pauvre chef opérateur, qui s'appelle Edmond Richard. C'est un extrait de, je ris d'avance, pardon. C'est un extrait de Striptease.
La mère, elle avance.
J'ai
pas.
Posé une question, tu m'as jamais répondu.
Elle est là, la caméra, elle peut pas être ailleurs.
Ta gueule, là, le projecteur. Et tu me fais chier. Moi, j'arrête ton truc. J'ai fini aujourd'hui, je m'en vais. C'est fini.
Et vous savez pas ce que vous voulez, non, vous êtes
tu
pas
sais,
foutu.
Tu me fais chier, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu me fais engueuler avec tout le monde, bordel de merde, et t'es un bordel à nique. Tu ne sais pas ce que tu veux.
Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot.
Tu comprends pas, tu expliques mal, tu ne sais pas expliquer.
J'attends que je pose ma caméra, puis voilà.
Ça fait 16 heures par jour depuis 10 jours. Merde, ça fait 140 heures depuis 10 jours, tu me fais chier. Moi je suis un vieux monsieur, c'est fini. Je finis ce film et je n'en ferai plus avec toi.
Bon, écoute, pour faire un plan comme ça, tu veux rigoler, j'en ai fait 10 000.
T'en as pas fait 10 000.
10 000, tu veux que je montre?
Non, non, je connais tous tes films.
Ouais, ouais, j'ai fait de la merde, mais plein de merde.
Ouais, ouais, et on...
Mais en fait, ça vous fait rire en même temps.
On est tout le temps en train de se disputer au cinéma. Même avec Serrault, qui était un de mes grands amis, on se disputait aussi. C'est-à-dire qu'il y a une excitation qui vient dans le travail et les gens veulent que ça se passe bien. L'opérateur veut qu'il y ait le ciel avec des nuages. Alors moi, je m'en fous un peu. Je veux dire, si je dois tourner vite et tout ça. Alors, il y a des antagonismes, bien sûr.
Enfin, c'est un moteur pour vous, quand même, la colère, manifestement. Oui. Il y a des cinéastes qui tournent
oui,
dans
mais
une
c'est
certaine
une colère, comme m'a dit un jour un cardiologue. Il m'a dit, c'est une colère qui ne réagit pas sur le cœur. C'est une colère fausse, quoi. C'est une fausse colère.
C'est-à-dire?
Vous jouez la colère, quoi, en permanence.
En colère, ouais. Moi je me mets pas en colère.
Vous la ressentez pas vraiment intérieurement?
Non, je hurle, mais c'est faux, quoi. Je parle faux. Je crie faux.
Vous hurlez faux.
Oui, c'est je hurle faux. Ouais, ouais. Mais ça fait quand même de l'effet sur certains.
En décembre 2012, nous avions proposé à nos trois correspondants étrangers de dialoguer avec Jean-Pierre Mocky au téléphone parce qu'il était encore en tournage. À commencer par Alex Vicente, correspondant pour El País.
Bonjour Monsieur Mocky, comment ça va?
Bonjour.
Vous allez bien?
Ouais, je vais très bien. Moi, je suis sous la pluie, là.
Ah, bah.
Je tourne sous la pluie. Alors, dites-moi,
qu'est-ce que je peux faire? Moi, je vous connaissais pas beaucoup. Je connaissais pas beaucoup votre œuvre. Donc, j'ai fait un peu de recherche, un peu d'enquête. Et j'ai trouvé un entretien dans une revue qui s'appelle La Lettre du Cinéma, où vous disiez quelque chose comme « La rapidité, c'est prendre le risque que la qualité soit dans le défaut ». Je me demandais si vous exprimez une sorte de regret par là, et je sais pas, est-ce que si vous avez tourné 20 films au lieu de 67, il y aurait plus de chefs-d'œuvre dans votre filmographie? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, moi, je crois que le chef-d'œuvre, que ce soit en peinture, en musique, c'est la spontanéité. Je déteste les films trop léchés dans un genre James Ivory ou tout ça. Par conséquent, je déteste ça et je suis un homme d'action. Je fais des films comme Picasso peigné. D'ailleurs, vous savez que Picasso préférait les petits croquis qu'il faisait sur
ses petites... Oui.
Plutôt que ces grandes toiles qu'on lui commandait pour les chapelles, etc. Et Cocteau, c'était pareil. Jean, il n'adorait que ses dessins, les petits dessins qu'il faisait. Ben moi, je suis pareil. Et je déteste tout ce qui est trop bien fabriqué.
Mais est-ce qu'il y a eu une sorte d'addiction ou de compulsion dans votre vie par rapport au fait de tourner, de produire,
oui,
de films,
mais
de produire
l'argent,
films.
L'argent fait que de Jean Vigo à Godard et tout ça, on n'a jamais eu d'argent pour faire des films. Et c'est pourtant de nous dont on parle le plus. Parce que si vous réfléchissez que mon ami Gus Van Sant a eu la Palme d'Or avec Elephant qui a coûté 30 francs et qui a été tourné en 13 jours, ben c'est formidable. Voilà ce que je vois, moi. Les œuvres, que ce soit les Japonais, les Allemands ou les Américains, les meilleurs films sont les films les moins chers.
Mais dites-moi, vous avez une technique remarquable.
Bon, je pourrais faire mieux, mais ça dépend des troncs. Voyez-vous celui-ci? Son orifice est simple et large.
Oui. Malheureusement, ils ne sont pas tous aussi faciles.
Ah, hélas. J'utilise la suceuse à sous dans les meilleurs des cas.
Ou sinon, vous travaillez comment? Au caramel mou?
Le caramel mou, oui. Et la pince articulée ou les Bruxelles, ça dépend. Mais au fait, vous semblez connaître la partie. Vous ne seriez pas un concurrent?
Non. Ah. Inspecteur Cuchera, brigade de surveillance des églises.
Maintenant, vous allez avoir en face de vous au téléphone Markus Rotteux, qui est allemand.
Bonjour Jean-Pierre. Ce qui m'intéresse dans les films que j'ai découverts, grâce à cette émission, c'est les thèmes qui vous travaillent depuis le début, je pense. Hein, c'est après les dragueurs, c'est la société française en fait, la société, le pouvoir et tout ce que vous contestez qui va avec. Donc derrière tous les artifices, les fausses moustaches, les scènes de cul et tout ça, finalement, ce qui vous importe le plus, je pense, non, de mettre le doigt là où ça fait mal, quelque part, non?
Eh ben oui, mais je suis un des rares à le faire, mais vous savez, en France, maintenant, on ne peut plus le faire. On n'est plus que deux en France à faire ça, à Boissé, qui ne peut plus travailler, et moi, qui ai beaucoup de mal à travailler. On ne peut plus rien dénoncer. On ne peut pas dénoncer la corruption. Aujourd'hui, on vous parle des gens qui partent en Belgique, de tous les comptes des politiques, etc. On ne peut pas en parler. On ne peut pas parler des vrais problèmes. On raconte des conneries, on formate le public, que ce soit d'ailleurs public allemand, français ou américain, et il y a quelques films qui surnagent, et nous on fait ça depuis toujours, depuis que j'ai commencé, j'ai raconté des histoires qui me touchaient, le football et la religion dans le miraculé, etc., et les combats humains et tout ce que vous voulez, et c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire que dans chaque pays il y ait ce genre de cinéaste, et on est de moins en moins nombreux, parce que les jeunes, quand ils voient la difficulté avec laquelle on travaille, eh bien ils ne veulent pas suivre ce chemin, alors ils font des télés complètement idiotes, formatées. Vous avez qu'à regarder la télévision française, elle n'est pas terrible. Hein.
Marcus. Jean-Pierre, il y a une autre question qui n'est peut-être pas en lien direct, mais ce qui m'a étonné, j'ai vu le linceul n'a pas de poche, où vous jouez un journaliste incorruptible, etc., très séducteur, bon, c'est un peu votre rôle. Hein. On peut dire aussi, il rencontre plein de femmes sur son parcours, il veut l'indépendance, changer son journal, etc. Est-ce que c'est pas, c'est un fil rouge peut-être dans vos films, c'est qu'il y a il y a les rapports sexuels qui dépassent les rapports sociaux, et donc du coup il y a une espèce d'utopie, une anarchie, quelque chose qui peut être possible à partir du moment où les personnes se rendent compte qu'ils n'ont rien à voir par leur classe.
Et il vaut mieux baiser des femmes que de se faire enculer par le pouvoir. Ben oui, écoutez, moi j'ai toujours baisé, j'ai connu beaucoup de femmes, et je crois que les femmes nous aident dans ce travail. Il y a des femmes qui sont formidables, vous savez, Salvatore Dali, Picasso, tous ces gens-là ont été soutenus par des femmes, par des égéries. Tandis que la politique, moi, je déteste tout ce qui se passe en ce moment. C'est une horreur ce qui se passe, ce qu'on voit dans les journaux. On ne parle que de ça. On ne parle pas des SDF. On ne parle pas des enfants qui meurent. On parle de ça, de des affaires de Monsieur Strauss-Kahn ou autre. On n'en a rien à foutre de la bite de Strauss-Kahn.
Eh, monsieur, moi, c'est pas pu. Monsieur Fox, qu'est-ce que c'est, Monsieur Fox? Dis donc, Pépé, tu te fous de ma gueule? Moi, je me présente gentiment, hein? Alors. Ah, t'es muet! Ah! T'es muet, mais t'es pas sourd! T'as ta petite pancarte! Un accident comme moi? Hein? On t'a tiré dessus? Qu'est-ce que. Hein? Des voyous qui t'ont tiré? Des gangsters qui t'ont tiré? Ouais, qu'est-ce que. Ah, une bavure! D'accord, j'ai compris. Et t'as touché l'assurance, toi? Eh ben, moi, rien du tout. Moi, rien du tout!
Ah, bah oh, merci, oui. Monsieur. Je cherche le wagon 38.
Monsieur est un malade aussi. Il marche, mais il parle pas. Moi, je parle, mais je marche pas. À nous deux, on fait un type complet. Ah, ma grosse cocotte.
Allez, les garçons. On va s'installer, on va prier. Le Seigneur nous entend. Et puis, j'ai apporté du thé, des infusions et la Bible que je vous lirai si vous êtes bien sages. Allez.
Maintenant, il y a Jordan Minzer, américain, qui va vous parler.
Oui, bonjour, Monsieur Mocky. Moi, justement, vous avez parlé d'argent tout à l'heure, mais on a vu le coffret qui est fait par Pathé de 50 films que vous avez pu faire. Et en fait, vous avez fait plus, vous avez fait presque
77.
Presque 77 films, mais tous vos films n'ont pas eu un succès au box-office. Comment vous avez fait?
On ne peut pas avoir de succès en box-office. Les grands, si vous voulez, pour avoir un succès, on ne peut pas. Je ne fais pas Astérix, je ne fais pas des films comme ça, je ne fais pas Le Seigneur des Anneaux, je ne fais pas ça, moi. Donc, je ne peux pas avoir de succès. Je ne peux avoir de succès que post-mortem. Quand je serai mort, on dira que c'était formidable ce que je faisais. Mais pour le moment, on ne le dit pas. Mais vous savez, beaucoup d'autres ont été dans mon cas. Il y a des réalisateurs qui n'ont pas fait beaucoup de grands succès. Et d'ailleurs, la plupart de mes maîtres, de ceux que j'aime, comme John Ford, etc., n'ont pas eu que des succès. Et Frank Capra, vous qui êtes américain, une de mes idoles, c'est Frank Capra. Et quand on considère que tous les films qu'il a fait avec James Stewart, à l'origine, n'ont pas fait un rond.
Ouais,
ça a été des insuccès. Et je ne parle pas de mon ami Orson Welles. Sa carrière a été désastreuse sur le plan financier. Il n'a jamais fait de succès, lui, par rapport à d'autres films. Voilà.
Ouais, Mocky qui disait « Mes films ne sont pas bâclés, ils sont effectivement sous-financés ». Et on a pu entendre deux extraits là de « Un drôle de paroissien » et du « Miraculé ». La dernière fois qu'on a reçu et vu Jean-Pierre Mocky, c'était en décembre dernier, invité avec Louis Garrel, qui avait eu l'occasion de le croiser sur le tournage du Redoutable de Michel Hazanavicius. Dialogue entre les deux dans notre studio.
Jean-Pierre est arrivé et il était assis comme ça sur une chaise. Il regardait des gens de l'équipe qui allaient, venaient. Il me disait, qu'est-ce qu'ils foutent là? Alors je lui dis, bah, par exemple, elle, la jeune femme, elle s'occupe des costumes. Il me dit, mais c'est cher. Pourquoi leurs costumes? Ils ont qu'à venir avec leurs propres habits, les acteurs. Alors je dis, bon. Il me dit, et celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Je dis, bah, celle-là, par exemple, elle s'occupe de la cantine. Mais attends, mais ça coûte tellement cher de nourrir les gens. Ils viennent avec leurs sandwichs, les gens. Alors je lui disais, mais quand même Jean-Pierre, on est obligé d'organiser une petite équipe. Non, c'est trop cher.
Non, mais c'était des cantines à 27 euros et ils mangeaient il y avait de la langouste ou je sais pas quoi quand même, il faut pas exagérer.
Mais... Il trouvait tout cher. Il disait, mais la machine à café, elle est quand même pas à nous. Mais je dis, mais si, mais il me dit, mais ça coûte à la location combien? 120 euros par jour, ce truc-là. Et donc je voyais que c'était l'économie de Jean-Pierre.
Et puis je me suis rendu compte que vous aviez fait les reconstitutions de mai 68 des pavés. Parce qu'on vous voit parmi les manifestants, donc c'était pas des stock shots.
Non, c'était vous super avez cher.
Il l'a filmé, Michel. Ça a été tourné, quoi. Ouais. Alors, il y avait 400 figurants, le boulevard Raspail, etc.
Mocky, qui a eu une super scène dans Le Redoutable de Michel Hazanavicius. Mocky, humour, fantaisie, comédie, mais aussi mélancolie, violence et politique. Notamment dans ce film Solo 1970. Dans lequel il incarne un anti-héros, un faux cynique qui tente de retrouver son jeune frère Virgile, chef d'un groupuscule d'extrême gauche, responsable de plusieurs attentats contre la haute bourgeoisie, réponse à mai 68, et peut-être son meilleur film.
Dès que le train s'arrête, je téléphone à Virgile.
Vous ne renoncez pas, vous?
Non, jamais.
C'est bien. Seul point commun entre nous.
Merci du compliment. Je procurerai de faux papiers à Virgile pour qu'il puisse partir le plus loin possible.
Trouvez-moi aussi, je partirai avec lui. On est grillé en France, mais on continuera ailleurs.
Ailleurs?
Oui. Dans tous les pays où il y a des hommes qui luttent pour une société où on ne serait pas esclave de l'argent. Vous ne pouvez pas comprendre ça, vous, qu'on ne vive pas pour gagner de l'argent.
Si. À vous entendre, je commence à le comprendre. Et de là à ce que ce soit une obsession, tu ne penses jamais à autre chose?
À l'amour? Non, jamais. Quand on voit où ça conduit les vieux, l'amour. On tombe amoureuse d'un gars, on voit la vie en rose, on se marie, puis on commence à remplir des papiers. Carnet de mariage, livret de famille, tout le bazar. On est fiché, puis on cherche un appartement, on achète des meubles, on signe des traites. Et pour finir, on fait des gosses, on prépare la layette. Et on se retrouve en train de pousser un landau dans les jardins publics avec un air de rombière satisfaite.
Évidemment, le genre bonne femme, ça ne te convient guère.
C'est dégoûtant, cette comédie. On lutte pour les gosses pendant les plus belles années de sa vie, puis après on te liquide dans une maison de retraite. T'as plus qu'à crever après avoir turbiné toute ta vie pour les autres. Voilà où mène l'amour. Moi, j'en veux pas.
Est-ce que vous considérez Solo comme l'un de vos meilleurs films?
Non, pas le meilleur, parce qu'il a été tourné avec tellement peu de moyens. Vous savez, le début, le générique, il y a 104 plans, rien que dans le générique. Non, parce que c'est des petits bouts qu'on a mis dans le générique. Parce que quand ils abattent les gens, c'est fait avec pratiquement... des petits morceaux, etc. Mais malheureusement, on n'avait pas de moyens. Donc le film est pas mal, mais il aurait pu être mieux. Alors Solo, c'est pas un mauvais film. C'est un film...
Ah non, c'est moins compliqué.
Non, je vais vous dire, le type, moi j'ai mangé une fois avec des metteurs en scène que je citerai pas, mais qui sont tout le temps à Cannes. Ils sont très fiers de leur film. Ils sont sûrs que c'est formidable. Ce sont des cons. Pourquoi? Parce que... Nobody is perfect. On ne peut pas faire un film parfait. Parce que vous rentrez dans un décor, vous auriez voulu avoir, je sais pas, une couleur du décor. Vous l'avez pas, parce que vous pouvez pas repeindre. Vous avez une fille, elle est pas bien, mais vous êtes obligé de la garder, etc., etc. Et finalement, vous ne faites pas le film parfait que vous deviez faire. Donc, aucun film n'est parfait. Donc, j'ai fait 100 films, mais j'en ai aucun de parfait.
Il tournait vite, mais tout le monde voulait tourner avec lui. La liste est vraiment impressionnante des acteurs Noiret, Sordi, Moreau, Azéma, Deneuve, Birkin, Serrault, Dutronc, Maillan, qui encore, Aznavour, Villeray, enfin bref.
Hervé Pochon.
Oui, bien sûr. Et autant dans ce film, Galabru, Marielle, Serrault, Carmet et Gélin, ce film, c'est Alain Seuil n'a pas de poche, en 74. Ne supportant pas les compromissions, un journaliste intègre démissionne et décide de fonder un journal au service de la vérité.
C'est plus un journal ici, c'est un cimetière. Alors j'enterre le scandale du fils du préfet, j'enterre le scandale du Sporting.
Oh, attention, hein, son président est le gros blèche.
Il me faut ton meilleur annonceur.
Sans publicité, il n'y a pas de journal. Et sans journal, qu'est-ce qui reste au bon peuple?
Une télé d'État. Une télé aux mains du parti du pouvoir.
Ben, remerciez-la la pub, c'est 46% de nos recettes globales. Allô, non, je suis pas là. La publicité, elle aussi, c'est une information.
Nouvelle marque de frigidaire, ça, c'est de l'information.
Ah ben, on aime bien boire sa bière fraîche. Vous avez jamais vu cracher dans un demi, vous?
Information, c'est pas un commerce.
Alors c'est quoi? C'est une mission?
Peut-être, la vérité.
Elle s'achète, elle se vend. C'est un produit comme un autre, la vérité.
Le mensonge, alors?
C'est la vérité, tout s'achète et tout se vend.
Même les sportifs.
Tout talent se monnaie. Bam, merde, ils en font aussi de la pub sur leur maillot pour des skis, pour des papiers-culs, pour des apéros. C'est le système, ça.
C'est joli, le système.
Écoutez, les gens n'aiment que le fric. On va pas les refaire, hein. La vie est brève. On veut en profiter au maximum.
Vous n'avez rien dans le slip.
Retirez immédiatement ces paroles ou je vous flanque à la porte.
Inutile, je démissionne.
Eh ben bon, débarras. Je n'ai que foutre des Don Quichotte.
À partir de 2007, et inspiré de Alfred Hitchcock présente, Mocky proposera une série télé policière en 41 épisodes de 26 minutes. Mister Mocky présente Hitchcock, qui était son modèle absolu.
Attention, please. Je ne suis pas Hitchcock, je suis Mocky. Mais Hitchcock et moi, on a les mêmes goûts. J'adore les histoires publiées dans Alfred Hitchcock Magazine. Et alors, comme il n'est plus là, j'ai voulu en faire, moi aussi.
Mais Hitchcock, si vous voulez, c'est ce que j'aurais voulu être en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait beaucoup de films de combat, des grands dossiers de journalistes en fait, puisque tous mes films traitent d'un problème, quel qu'il soit, que ce soit lourde, la télévision, la guerre, tout ce qu'on fait, enfin, tout, le mariage des fonctionnaires, tout quoi. Je me suis attaqué un peu à tout. Et là, en fait, lui, ce qui était formidable chez lui, c'est qu'il pensait qu'à l'audience, la fameuse audience, au public, et il faisait des choses captivantes et qui n'avaient pas de, il n'avait pas de prise politique. Lui, c'était pas un combattant comme certains cinéastes, comme les cinéastes italiens par exemple, ou même les cinéastes américains comme Oliver Stone ou des gens comme ça. Il était complètement à part. Il faisait du divertissement. Et au fond, peut-être que notre métier c'est ça. Notre métier c'est de divertir les gens. Et lui, il l'a fait. Il l'a tout le temps fait. Et faire ces petits films de 26 minutes, j'en ai fait 27, ça m'a donné une joie d'enfant. Et je pense que c'était la joie qu'il avait à faire ces films, L'homme qui en savait trop, Le crime était parfait, La mort aux trousses, tout ça. Parce que finalement, c'était des histoires très simples. La mort aux trousses, ce type qui est pris pour un autre, etc., qui a toute cette aventure. Et au fond, je crois qu'il a bercé énormément de jeunes et de plus vieux. C'était une espèce de pilule de bonheur, ces films. Peut-être qu'un metteur en scène, c'est faire ça, ou faire des films d'amour pour exalter l'amour, comme Autant n'emporte le vent, des choses comme ça. Or, nous, on est amené comme... Il y a énormément de ratages dans le cinéma. Et on fait 248 films en France, faut bien le dire. Et sur ça, il y a à peu près 220 films qui sont pas bons. Donc il en reste environ 28, c'est tout à fait un calcul tout à fait approximatif. Mais alors, il y a déjà des gens qui réussissent des films d'amour. Alors, moi j'ai choisi cette voie d'être un type en marge, etc. Mais au fond, j'aurais préféré être Hitchcock.
Là, il est un petit peu nostalgique, il nous a fait beaucoup rire, on l'a beaucoup entendu dans tous les sons que nous avons passés, et nous sommes d'autant plus tristes de son absence. La dernière fois, c'était après cette émission de décembre, rue de Bièvre, où il signait ce livre Somme, qui s'appelle Mocky, une vie de cinéma chez Neva. Et pour le plaisir, avant de nous retrouver, de retrouver Souchon et les sorties de films, Les saisons du plaisir, Jacqueline Maillan, Denise Gray.
Alors, Flora déboutonne son corsage. Il s'en échappe un énorme mamelon. 5 kilos au moins. 5 kilos, ils exagèrent. Ça pèse pas 5 kilos. Oh, peut-être la peur, je sais pas, mais enfin. Enfin, bref. Enfin, un très gros sein qu'on avait envie de peser tant il était...
Tu veux une balance?
Ah non, maman, pas toi.
C'était long, ça? Ta passion pour le piano? Eh ben, c'est du propre.
Mais tout le monde le fait maintenant. Il y a des Minitel, et puis il y a des annonces dans des journaux très très bien. Raconter les saletés, les pauvres types. C'est un nouveau métier. Ça fait de mal à personne. C'est juste au téléphone. Comme ça, on n'attrape pas de maladie.
Et tu as attendu 40 ans pour te découvrir cette vocation.
Tu peux pas savoir combien j'ai souffert depuis l'accident de Garibaldi.
Et Charles, tu crois qu'il fait des prouesses? Je raconte pas de saletés au téléphone, moi.
Mais tu as 100 ans, maman. Tu es bien, mais t'as quand même 100 ans. Moi, j'ai ma vie devant moi.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris sur la plage du Crotoy en face de Saint-Valery. Les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage, derrière. I'm 50s, I'm 50s. Dans le radiola, André Verschuren, les enfants soldats dans les montagnes algériennes. La Picardie est belle sur la route ravie, en haron de plein ciel qui rentre à Paris. I'm 50s, rue campagne première, personne le ramasse quand il tombe par terre. Qu'est-ce que c'est dégueulasse au salon de l'auto sous le dos. Touche pas au Grisby du con dans sa vedette Vendôme. Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure dans le train Mistral. Y a un coiffeur. I'm 50s, I'm 50s. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard, I'm 50s. Monique, frégate, transfluide, vedette, abeille, Patrick, I'm 50s. Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux Renault. Quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz, une légère brise.
I'm 50s, voilà, c'était une exclue, Alain Souchon, le retour et son nouvel album original qui sortira en octobre.
C'est l'ultra-moderne nostalgie.
Ouais, les sorties. Alors, on va commencer par donc ces dernières sorties du dernier mercredi de d'août. Par Frankie, le réalisateur américain Ira Sachs quitte New York pour tourner en Europe. L'histoire, Frankie, célèbre actrice française, c'est Isabelle Huppert, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses proches à Sintra, au Portugal. Une information assez capitale, sa maladie, que l'on sait tard dans le film, ce qui fait qu'on a du mal à entrer en empathie. C'est voulu, c'est sûr, par Ira Sachs, mais sans cette information, que raconte ce film? Bien, les états d'âme de cette communauté riche et lettrée, dans un dispositif théâtral et bavard, Seul ressort de ce casting 5 étoiles, parmi lesquels Pascal Grégory, Jérémy Régnier, Brendan Gleeson, Marisa Tomei, Greg Kinnear, donc seul ressort Isabelle Huppert, tellement juste comme toujours, un film pour elle, sur elle, autour d'elle, mais un film qui a un peu oublié les autres.
Oui, je trouve. Alors, effectivement, c'est certainement pas Isabelle Huppert qui est en cause. Hein. Elle porte le film de bout en bout. Et pour l'avoir vu récemment sur la scène de l'Espace Cardin, jouée pendant 1h30 seule en scène, c'était une performance extraordinaire. Donc, elle est vraiment pas en cause. Non, ce qui se passe, c'est que on en a rien à fiche de ces bobos vaguement tchékoviens qui se posent des questions faussement existentielles et qui passent leur temps comme ça à s'interroger. C'est ça le problème, effectivement, c'est que on devrait être au plus près d'eux, ressentir leurs émotions, se demander si la mort qui passe, tout ça, c'est grave. Et puis non, il se passe rien. Il y a une sorte de théâtre, vous le disiez, filmé, qui se déroule sous nos yeux sans qu'à aucun moment on ne sente l'envie d'en savoir au fond plus sur ces gens.
Une fille facile de Rebecca Zlotowski. Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa cousine Sophia, au mode de vie attirant, vient passer des vacances avec elle ensemble. Elles vont vivre un été inoubliable. Eric Rohmer est une femme. Elle s'appelle Rebecca Zlotowski. C'est fou, les références à ce cinéma-là. Commencer par la citation introductive signée Blaise Pascal, que le pascalien Rohmer n'aurait pas renié. La chose la plus importante à toute la vie est le choix du métier. Le hasard en dispose. La vie, le choix, le hasard traversent ce film solaire. Ce conte d'été amoral sur la puissance, dixit Rebecca Zlotowski. Une puissance incarnée par une révélation, Zaya Dehar. Un mélange de la Bardot de Vadim et de la Dombasle de Rohmer. Un corps et un phrasé sensuel et fascinant, même hypnotique. Un récit d'apprentissage ainsi qui nous interroge sur la féminité, ses clichés, la violence des rapports de classe ou la cruauté côtoie la légèreté. Dans le rôle de celle qui observe, la jeune Mina Farid, l'autre révélation. Comme Rebecca Zlotowski, son personnage ne juge pas son modèle, son mode de vie ou sa sexualité, et réussira même, grâce à un autre initiateur incarné par Benoît Magimel, décidément un très grand acteur, à distinguer les principes des valeurs. Ça, c'est une leçon pour la vie.
Oui, c'est le quatrième long métrage de la surdouée Rebecca Zlotowski. Après, il faut le rappeler, Belle Épine, Grand Central et Planétarium, ce dernier film injustement passé inaperçu. Alors, elle poursuit son exploration féminine du monde. Elle revient à sa figure favorite, d'ailleurs, celle des deux personnages principaux féminins qu'elle travaille, qu'elle retravaille. C'est très intéressant. Cette fois, il est question aussi de séduction et de prostitution, de lutte des classes et de lutte des sexes, sur fond d'un Cannes qui n'est pas celui du festival. C'était d'ailleurs assez drôle de voir ce film à Cannes, en plein festival, alors qu'il ne montre pas seulement cette réalité-là. On y parle aussi de Duras, dans une scène merveilleuse avec Clotilde Courau en maîtresse de maison assez sympathique. Et puis, il y a effectivement aussi Benoît Magimel. Toutes ces qualités font effectivement que le film de Rebecca Zlotowski, si je puis dire, tient la route et que surtout, on voit de plus en plus s'affirmer un auteur, une réalisatrice, quelqu'un qui a vraiment un regard sur le monde et ça fait du bien.
Vif Argent, premier film du directeur de casting Stéphane Battu avec Judith Chemla et Timothée Robard. Juste, c'est le prénom de ce garçon, erre dans Paris à la recherche de personnes qu'il est le seul à voir. Il recueille leurs derniers souvenirs avant de les faire passer dans l'autre monde. Un jour, une jeune femme, Agathe, le reconnaît. Elle est vivante, lui est un fantôme. Comment pourront-ils s'aimer, saisir cette deuxième chance? Beau synopsis fantastique, c'est assez rare dans le cinéma français pour être souligné, avec des référents aussi forts que Franjus ou Cocteau, du réalisme fantastique donc, exacerbé dans une surenchère lyrique, touchant à certains moments, mais un peu trop dilué dans la poésie et la métaphore, et surtout qui nous coupe de l'émotion, bref, trop long. Vif Argent aurait très bien pu être un court-métrage.
Oui, il était à Cannes, hein, dans la sélection de l'acide, et à Cannes cette année, vous savez, c'était l'année de tous les fantômes et tous les zombies, hein, oui. De Jarmusch. Chabonello, oui. On en a soupé hein, du fantôme. Bon, ben Stéphane Battu apporte sa pierre à l'édifice, je suis pas sûr que ça soit la meilleure et surtout que dans cette même sélection de l'acide il y avait dans un faux film de genre le prochain film qu'on verra bientôt de Pierre Trividic et Patrick Mario Bernard qui était présenté en compétition qui s'appelle, enfin à l'acide, qui s'appelle L'Angle Mort et qui était autrement plus ambitieux. Ben ici, c'est un film qui se définit par ses affaîtries, son maniérisme, sa musique envahissante, ses trucs et ses tics et ses tocs, et c'est bien dommage parce qu'on sent qu'il y a quand même derrière effectivement une personnalité.
La vie scolaire de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, leur deuxième film après Patient. Une année au cœur de l'école de la République, Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale Dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis, elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant les élèves que son équipe de surveillants. Voilà ce que dit la brochure officielle. Autant Passion, inspirée de la vie de Grand Corps Malade, était une belle surprise, autant celui-là, et vu le sujet rabattu par le cinéma, est beaucoup plus attendu dans le scénario et convenu dans les situations, alors que le film s'inspire de la propre existence de Mehdi Idir, élève lui aussi dans le passé au Franc-Moisin à Saint-Denis. Un scénario qui enchaîne une succession de sketchs sans véritable armature, une galerie de portraits certes dessinés avec humour, gravité et vitalité, mais sans véritable enjeu ou propos politique. Pour conclure, je dirais qu'on retiendra surtout la sincère générosité des deux réalisateurs et leur capacité indéfectible à croire en l'autre et à l'école. Pourquoi pas? On va finir avec Apocalypse Now, très vite, Final Cut, vous avez vu sur très grand écran, Laurent.
Oui, bah, il est malin le Coppola, hein, tel un épicier italien recevant le nouvel arrivage de sa meule de parmesan qui a fait sa réputation. Bah, il nous tend cette fois sa troisième version de son chef-d'œuvre, faut le dire. Voilà. Alors c'est plus long que la première, moins long que la seconde, on s'y perd un peu. Voici donc le Final Cut, c'est toujours extraordinaire. Dans 10 ans, il y aura l'ultimate, qu'on se rassure. Et peu importe, parce que l'actualité de Coppola, elle est toujours là. La preuve, c'est que James Gray, dans son prochain film Astram s'en inspire énormément.
On rappelle que Parasite est toujours à l'affiche à Palme d'Or du coréen Bong Joon-ho, et cette folle unanimité autour du film qui a déjà réuni 1 557 000 spectateurs, et également Roubaix et Lumière.
Une Lumière, le nouveau des Pleuchins qu'il faut courir.
Wow. Michel Aumont, on va finir avec lui, mort hier à 82 ans, 60 ans de carrière, grand nom du théâtre et grand second rôle au cinéma, Laurent.
Oui, alors il venait du théâtre, vous l'avez dit, et ça se sentait à sa diction parfaite, notamment le cinéma qui lui a donné une autre liberté sans pour autant lui fournir peut-être les plus beaux et principaux rôles. Lui qui avait quand même joué plus de 200 fois l'avare sur la scène de la Comédie Française, il méritait peut-être mieux, mais quand même, on l'a vu chez Weber sauter Tavernier, Valérie Lemercier dans des rôles absolument truculents. Il joue, c'est un des personnages qui joue le mieux, je crois, de la scène française, la trouille, la veulerie, la mesquinerie, la méchanceté fourbe, et on va l'entendre, tenez, mesquin dans cette scène des Invités de mon père de Anne Leny.
Alors, voilà de quoi il s'agit.
Vous savez que je n'ai jamais eu de clientèle privée et que j'ai pris une grosse retraite, donc j'ai assez peu d'argent de côté. Mmh. De toute façon, vous avez tous les deux un bon métier, vous gagnez très correctement votre vie. Je sais que vous n'attendez pas après mon héritage.
Et donc ?
Et donc, Tatiana et Sorina n'ont rien. Je voudrais leur donner un coup de main en leur laissant quelque chose après ma mort, voilà.
T'as qu'à leur faire une donation. C'est très gentil de nous en parler, mais t'as pas besoin de nous pour ça.
Ah non, mais je voudrais qu'elle puisse avoir l'ensemble.
L'ensemble? L'ensemble, tu veux dire tout?
Oui.
Tu veux nous déshériter?
Ah, ben, dit comme ça, c'est un peu mélodramatique. Il n'est évidemment pas question de vous léser. Il s'agit simplement que l'argent aille à ceux qui en ont vraiment besoin, ce qui me semble tout à fait raisonnable. Bon, maintenant, si d'un autre côté, pour une raison ou pour une autre, vous estimez que c'est vous qui en avez le plus besoin, ben voilà, tout est dit, on n'en parle plus. Hein.
Voilà, c'était la première de la rentrée avec cet hommage à Mocky, générique de fin, avec lui, accompagné d'Antoine Decaune. Comment vous faites pour tenir? Vous êtes bien?
Ben, je suis très bien, oui. Mais vous aussi.
Mais j'ai pas votre âge.
Ah, mais pardon, mais vous allez l'avoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Chewbacca.
Arnaud Lapin s'est occupé de la préparation.
Jamin, Jean-Pierre. C'est une émission réalisée par Anne Venfeld.
Elle est tournée en scope à Manguin et tirée en couleur par Radio France. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Mange un, Jean-Pierre.
Ah bon, excusez-moi, je sais plus.
Merci à nos réalisatrices Laurent Thomas, Claire Destacan et Ophélie Vivier pour sa préparation. Et aux manettes aujourd'hui, Élise Christophe.